Accent d'Europe, Juliette Rangeval.
Som una i de la història, un avui que ve i se'n va. Som presència, som memòria, som el poble català.
Bonjour. Un parlement fragmenté et l'extrême droite qui célèbre son bon score au lendemain des élections en Espagne. Les résultats ont un goût de défaite pour les socialistes de Pedro Sanchez. À l'extrême droite, Vox devient la troisième force politique du pays. Le parti ultranationaliste a surfé sur la crise du séparatisme catalan qui a joué un rôle majeur dans cette campagne. Et au lendemain du scrutin, cette crise devient de plus en plus difficile à résoudre avec, face à l'ascension de Vox, un renforcement des partis séparatistes. Des séparatistes qui sont pourtant eux-mêmes profondément divisés. On retrouve Élise Gazangel, notre correspondante à Barcelone. Bonjour Élise.
Bonjour.
Le camp indépendantiste paraît avoir beaucoup de mal à s'entendre.
Bien, les indépendantistes ont de plus en plus de mal à cacher leur division, que ce soit du côté de la gauche républicaine ou de la droite. Et à chaque manifestation à laquelle assistent les dirigeants politiques catalans désormais, des cris réclamant l'unité se font entendre. Suite au référendum d'octobre 2017, les choix opposés des deux principaux leaders indépendantistes avaient marqué une première rupture publique. D'un côté, le président catalan Carles Puigdemont de la droite indépendantiste Junts per Catalunya avait décidé de fuir vers la Belgique. De l'autre, son vice-président d'Esquerra Republicana de Catalunya, la gauche républicaine, Oriol Junqueras, lui s'était rendu devant les tribunaux qui l'avaient placé immédiatement en détention provisoire. À l'époque, la Catalogne avait été mise sous tutelle, ce qui avait débouché sur des élections régionales. Se présentant séparément au scrutin, les deux partis avaient alors ouvert les hostilités publiquement. Junqueras, en campagne depuis sa prison, avait même assuré qu'il était incarcéré parce que lui ne se cachait pas, un message qui était mal passé à l'époque dans le camp de Puigdemont, mais finalement, et comme toujours, les deux partis se sont alliés pour former un gouvernement indépendantiste. Ici, les tensions internes valent moins que la possibilité de perdre le contrôle de la région.
Mais ce gouvernement régional, Élise, il semble tout de même de plus en plus fragile.
Oui, et surtout depuis l'annonce de la condamnation des anciens dirigeants catalans le 15 octobre dernier. Le président catalan Quim Torra, de la droite Junts per Catalunya et proche de Puigdemont, cherche la confrontation avec le gouvernement espagnol. Il y a quelques jours, il a même affirmé face au Parlement régional vouloir organiser un nouveau référendum avant la fin de la législature, ce qui a passablement énervé l'autre camp, la gauche républicaine, qui prône, elle, le dialogue avec Madrid. Le vice-président Pere Aragonès s'est empressé à d'annoncer aux médias que son parti ne partageait pas cette position. Et rapidement, des voix se sont élevées. L'ancien chef de la gauche au Congrès a même réclamé publiquement de nouvelles élections régionales. Et les débats pendant cette campagne électorale ont été houleux. La droite reprochant à la gauche de vouloir séduire les socialistes à Madrid en échange de l'amnistie pour les prisonniers. La gauche critiquant la droite pour avoir conclu un pacte avec les socialistes pour les évincer de la province. Et enfin, la gauche radicale indépendante La Coupe, qui se présentait pour la première fois à ces élections espagnoles, a durement critiqué la gestion du gouvernement catalan et a réclamé de nouvelles élections catalanes pour début 2020, des élections anticipées de plus en plus probables, selon les dernières rumeurs.
Merci Elisa, à bientôt.
Señor, señor, señor peluquero, ya se quedó sin dinero. Pues nadie ya se quiere pelar, 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 pelar.
Dans une Espagne en pleine crise politique, l'économie tenait bon jusqu'ici, mais la croissance commence à donner à son tour des signes de ralentissement. C'est une mauvaise nouvelle pour les autonomos, ces travailleurs indépendants qui sont déjà très pénalisés dès qu'on parle retraite, fiscalité, prestations sociales. C'est l'un des moteurs de l'économie espagnole, mais ils toussent. C'est un reportage de Diane Cambon à Madrid.
Être son propre chef, s'organiser à sa guise, disposer de son temps, toute cette belle théorie de l'auto-entrepreneur, Patricia n'y croit plus depuis longtemps. Esthéticienne et coiffeuse de formation, cette jeune femme de 33 ans travaille à son compte dans le salon de coiffure de sa chef. Jamais il n'a été question d'être embauchée.
Je suis travailleuse indépendante et j'en ai assez, car on a énormément de charges et on n'y arrive pas. On paye énormément d'impôts et tous les trimestres, on doit reverser la TVA. Ils pensent peut-être qu'on gagne des milliers d'euros, mais ce n'est pas le cas.
Chaque mois, elle doit verser 267 euros à l'administration pour la sécurité sociale et la retraite. C'est la cotisation minimum obligatoire que l'on gagne le SMIC, 630 euros, ou 3 000 euros par mois. Pour la grande majorité des autonomos, les auto-entrepreneurs, ce système est injuste, comme l'explique Ernesto, avocat de formation et désormais à son compte comme traducteur juridique.
Je crois qu'il faut changer les barèmes et que les autonomos cotisent en fonction de ce qu'ils gagnent. Il faut plus de contrôle sur les bénéfices des auto-entrepreneurs, adapter les cotisations et surtout améliorer la couverture sociale.
C'est l'autre grand point sur lequel les travailleurs indépendants se battent. Augmenter les prestations sociales qui sont 37% plus basses que celles appliquées dans le régime général. Pouvoir être en congé maladie, c'est quasiment mission impossible. Et quant à la retraite, mieux vaut avoir préparé ses arrières, comme l'explique Puerto, directrice du salon de coiffure madrilène La Guapa.
Pour ma retraite, je vais toucher le minimum, c'est-à-dire 600 euros par mois. C'est rien du tout. Et les congés maladie ont 33 ans d'activité. Je me suis arrêtée 3 fois, 2 fois pour accoucher et 1 fois car on m'a opérée. Si j'ai un rhume ou de la fièvre, je vais travailler car je ne peux pas fermer la boutique et personne ne va me payer.
La sensation d'être dans une situation précaire est d'autant plus forte que c'est le travailleur indépendant qui doit se charger de toute la paperasse administrative. Pour l'avocat Ernesto, cette charge est source de préoccupations constantes.
La situation d'incertitude laborale est...
On est dans une situation très incertaine. On doit faire correctement nos déclarations fiscales et notre comptabilité. Et ici, en Espagne, il y a très peu d'informations publiques sur les obligations fiscales. Personne ne te l'explique correctement. Et pratiquement tous les auto-entrepreneurs que je connais ont eu des frayeurs avec le fisc pour ne pas avoir rempli des papiers dont ils n'avaient aucune idée. La plupart du temps, tu es obligé de payer les services d'un conseiller fiscal et ça fait des frais en plus.
Los impuestos, ¿no? Y la contabilidad. Entonces, es otro gasto más.
En cas de crise ou de ralentissement économique, comme c'est le cas en ce moment en Espagne, le nombre d'auto-entrepreneurs augmente. Très peu d'entreprises embauchent des salariés, les coûts sont trop élevés, comme l'explique Puerto dans son salon de coiffure.
C'est impossible d'embaucher quelqu'un, il faut être une très grosse entreprise. Si je prends un salarié, ça me coûte 500 euros par mois de cotisation. Non, non, chacun est autonomo et paye sa propre sécurité sociale.
Une situation qui se généralise dans toutes les professions, comme le souligne Ernesto.
Ces dernières années, la situation de l'emploi s'est précarisée, car beaucoup de gens qui étaient embauchés ont dû se mettre à leur compte et payer leurs propres cotisations sociales.
Améliorer le statut des auto-entrepreneurs est une promesse qui revient à chaque campagne électorale, mais personne n'y croit plus. Ernesto n'attend rien du futur gouvernement.
Je ne vois aucune possibilité que les choses changent avec les partis actuels. C'est un thème récurrent et cela ne les intéresse pas de baisser nos barèmes de cotisation, car la sécurité sociale reçoit chaque fois moins de cotisations, alors rien ne va changer.
Seul espoir du collectif, la formation d'un gouvernement stable pour les 4 prochaines années, capable de faire face à l'incertitude économique qui plane et qui ne peut que les affecter.
Lesson of English.
Au Royaume-Uni, les élections se tiendront dans un mois, le 12 décembre, dans un pays qui vit en plein psychodrame après le référendum organisé en juin 2016 sur la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, les commentateurs n'en finissent pas de se demander ce que veut vraiment le peuple. Ce peuple britannique, il est l'objet d'un livre. Le journaliste Jack Shenker vient de publier « Maintenant que nous avons votre attention, la nouvelle politique du peuple », c'est chez Penguin, ce n'est pas traduit. Notre correspondante à Londres, Marie Billon, s'est plongée dedans. Bonjour Marie.
Bonjour Juliette.
Qu'est-ce que ça veut dire la nouvelle politique du peuple ?
Alors déjà, ça n'est pas une nouvelle manière de dire populisme, hein, même s'il y a des éléments de populisme dans le constat de Jack Shenker. Mais en gros, il s'est demandé, est-ce bien vrai que les Britanniques en ont marre de la politique et s'en désintéressent ? Et pour lui, la réponse est non, c'est juste qu'ils en ont assez que la politique soit réduite réduite à ce qui se passe à Westminster. Jack Schenker est journaliste et il se livre en grande partie à une critique des médias depuis le Brexit. Même avant, on parle des querelles de partis, des personnalités. Parfois, on interroge les ministres sur les moyens de financement d'une politique. Mais quand s'intéresse-t-on vraiment aux gens, aux Britanniques, ceux pour qui les politiques sont censés travailler et agir ? C'est bien simple. Depuis le référendum, la politique n'est presque que de la politique politicienne. Alors, Jack Schenker a décidé, pendant que tout le monde a le dos tourné au pays pour scruter Westminster, lui va sillonner l'Angleterre pour voir comment les Britanniques réagissent à tout ça.
Bon, mais Marie, je croyais que les Britanniques se désintéressaient c'est de la politique.
Alors, il y a bien sûr ceux qui se sont laissés séduire par les populistes. L'auteur leur consacre un chapitre. Il est ainsi allé à Tilbury, dans le comté d'Essex. C'est un ancien port industriel où les taux de pauvreté et de chômage sont si élevés que le journal The Guardian a élu Tilbury en 2012 la capitale de la misère. Ces dernières années, le UKIP, ancien parti de Nigel Farage, y a obtenu quelques-uns de ses meilleurs scores. Mais ce n'est pas seulement des populistes que Jack Schenker veut parler. L'auteur, qui a clairement des sympathies à gauche, s'est penché sur les mouvements de contestations qui viennent de la gauche, justement. Et à ceux qui estiment que les Britanniques ne descendent pas dans la rue, ne manifestent pas, bref, que ce type de mobilisation n'est pas dans leur ADN, eh bien il répond « Faux ! Regardez les Mac Strike en 2017 dans la région de Watford à l'ouest de Londres, quand le géant américain du fast-food a refusé de payer ses employés plus que le salaire minimum, ces derniers se sont mis en grève. Ils ont même réussi à s'organiser avec les salariés d'Uber Eats, Deliveroo, TGI Fridays et avec la chaîne de pub britannique Witherspoons, mais ces Mac Strikes n'ont pas fait les unes des journaux.
Et selon Jack Schenker, ces contestations locales, par secteur, c'est le symptôme de quelque chose de plus général.
Il y a un effort de coordination. Il évoque de nombreuses fois les séminaires « Demander l'impossible » créés par deux profs d'université. Leur but est d'apprendre à élever la voix et à obtenir des résultats. L'un des exercices, par exemple, est d'organiser un sitting ou une manifestation, la plupart du temps dans une université, puisque la majorité de ceux qui suivent ces cours sont des étudiants. L'idée, c'est de devenir un citoyen engagé et un manifestant efficace. Autre exemple, le succès de Momentum, ce courant politique très à gauche au sein du Parti travailliste, très proche de son leader Jeremy Corbyn. Momentum est, selon l'auteur, le produit de deux phénomènes, la crise financière de 2008, mais aussi l'échec de la social-démocratie à répondre à ses conséquences. Le mouvement a réussi à enthousiasmer des jeunes et des plus âgés, et la personnalité de Jeremy Corbyn est aussi l'une des raisons de ce succès. Parce que si Jeremy Corbyn est un leader travailliste très impopulaire dans l'opinion publique, il est un militant jusqu'à la moelle. Il symbolise ce qu'on appelle le grassroots, un militant qui vient du peuple, pas de la machine de parti. Jack Schenker évoque ainsi ce fils de réfugié chilien qui a adhéré au parti quand Corbyn a été élu, car il le connaissait. Il l'avait vu plusieurs fois dans des manifestations anti-Pinochet.
Alors Marie, Momentum et le Parti travailliste ont effectivement remporté un score surprise aux élections de 2017. Ils vont essayer de faire mieux cette année, mais ils ne s'adressent pas à toute la population. Beaucoup s'en méfient, hein, même aujourd'hui. Est-ce que le livre est destiné à un lectorat particulier très marqué à gauche?
Oui, très certainement. Mais ce que dit Jack Schenker, c'est qu'il y a plus de Britanniques qu'on croit qui pourraient être tentés par cette vision. Il prend l'exemple de Leila, étudiante de Manchester. Comme beaucoup de jeunes aujourd'hui, elle ne peut pas espérer avoir une meilleure vie que ses parents. Les salaires ne suivent pas, par exemple, l'augmentation des prix de l'immobilier. Les jeunes Britanniques sont très pessimistes. Le XXe siècle a été le siècle de l'enfant. Le XXIe sera celui de l'enfant perturbé, disent des psychologues cités dans le livre. L'écart entre riches et pauvres ne fait que grandir. Des villes comme Manchester se réjouissent de détruire des logements sociaux pour construire des logements de luxe, dit encore Jack Schenker. Le mécontentement social ne se confine plus à une certaine population, il s'étend, il se démocratise dans un sens. C'est pour ça, dit le livre, qu'il faut peut-être arrêter d'être surpris quand on voit les Britanniques descendre dans la rue.
Marie Billon à Londres. C'est un concept venu tout droit du Japon qui débarque en Italie. Des hôtels capsules dont le nom désigne la toute petite taille des chambres. La première ville à en avoir inauguré un, c'est Naples, à quelques centaines de mètres de la piste d'atterrissage de l'aéroport. Visite avec Cécile Debarge.
Ici, c'est un endroit très particulier qui se trouve dans un bâtiment à l'extérieur du terminal des passagers de l'aéroport de Naples. Et c'était une vieille zone industrielle dans laquelle on préparait les repas servis à bord des avions. Et quand ce business a perdu en importance, c'est resté complètement vide pendant pas mal de temps et cet espace a été transformé en hôtel capsule.
Sergio Gallorini est le directeur commercial de l'aéroport de Naples. Autour de lui, des sortes de petits containers aux couleurs pastel égayent l'ancien bâtiment industriel. Chacun d'eux cache une petite porte.
Ce sont des cubes de 3 mètres sur 3 de longueur et de hauteur et où les passagers peuvent dormir. On dirait des cabines de première classe d'une compagnie aérienne.
Quelques plantes, de grandes fenêtres, une décoration minimaliste et des prix à l'heure et non à la nuit. Tout est fait pour les gens de passage ayant des vols qui partent très tôt le matin ou arrivent très tard le soir. L'hôtel s'appelle Bed and Boarding, littéralement un lit et l'embarquement. Pour 10 heures de sommeil, c'est entre 24 et 30 euros. Pour une ou deux heures, 6 euros. Avec cette offre, l'établissement visait surtout les touristes étrangers de plus en plus nombreux à venir passer quelques jours à Naples. Pourtant, entre 56 et 60% de la clientèle est composée d'Italiens de la région.
Pour rejoindre l'aéroport, ils doivent prendre un bateau pour quitter l'une des îles du golfe de Naples ou bien ils ont de nombreux kilomètres à parcourir avant d'arriver car ils vivent loin de Naples.
Car dans un sud souvent enclavé et moins bien desservi en infrastructure de transport que le nord du pays, le développement fulgurant de l'aéroport de Naples, qui est l'un de ceux dont le trafic aérien augmente le plus ces dernières années, sert dément pour toute la région. Avec 106 destinations, dont une dizaine seulement en Italie, la fréquentation de l'aéroport a doublé de 2013 à 2019 de 5 à 10 millions de passagers, pour moitié des touristes qui arrivent à Naples et pour moitié des Italiens de la région qui partent. Au-delà de son côté insolite, l'hôtel capsule, avec sa politique de prix modéré et surtout sa formule à l'heure, a permis de favoriser une mobilité longtemps à l'arrêt dans la région.
De la musique pour ce lundi d'automne à Paris avec Vincent Théval. Bonjour Vincent.
Bonjour Juliette.
Et aujourd'hui on écoute les Norvégiens de Konradsen.
Oui, il y a une histoire de famille et de communauté et de souvenirs aussi, ce qui imprègne la musique du duo norvégien Konradsen. Il réunit la chanteuse et pianiste Jenny Marie Sabel et le multi-instrumentiste Erik Wildgren, qui se sont rencontrés au lycée et ont en commun d'avoir grandi dans la campagne du nord de la Norvège. Jenny Marie Sabel a vécu dans une communauté très soudée, dans un petit village où elle a été bercée au son du piano familial. Quant à Erik Wildgren, il s'investit adolescent dans le centre communautaire de Krakeslottet sur l'île de Senja, où il rencontre nombre de musiciens et d'artistes locaux. Ce sont ces ambiances et ces rencontres qui refont surface quand le duo compose et enregistre son premier album, le beau Saints and Sebastian Stories, où ses chansons pop délicates se parent parfois de bribes de conversations ou d'extraits de films amateurs familiaux, une ambiance sonore à la fois étrange et chaleureuse qui donne une patine particulière au disque de Konradsen.
Here's to all who wonder why mother said she was lost. It all stink, but we slept tight round baby pines. Loved you like a loco, whoever said you did. Your cancer, hard to tell you, it's all in time. I was roasted by years, I was roasted by years. Got you hung up in tears when we wrote this. Can I find it in there? Pull back, bind it, be here. Stack a cake for my dear. I was roasted. All I ever saw was a guy who hung himself. And all he ever held was a grudge on me. I told you she's a mess. No one ever found her wedding dress. The tide brings us too close to our bottom line.
Konradsen et leur titre Roasted, Accent d'Europe à la réalisation, Jérémy Besset. Vous retrouvez le podcast de l'émission sur RFI.fr et sur les réseaux sociaux. À bientôt.
autour de la question.